Chers auditeurs, nous voici de retour sur Transistor pour cette série de 3 émissions consacrées au travail d'un groupe d'apprentis architectes de l'information à l'ENS qui se sont attelés à l'analyse d'un MOOC, celui initié par Orange et la RMNGP, et consacré à l'impressionnisme.
Et nous venons tout juste d'entendre Christine Vaufray, sérial MOOCeuse devant l'éternel et responsable pédagogique du MOOC qui nous intéresse. Mais dis donc, vous l'avez bien cuisiné, Christine.
Ah, oui, et d'ailleurs, on en profite pour la remercier chaleureusement, ainsi qu'Anne-Lise Guinchard et Françoise Fernandez, pour ces rendus si disponibles et nous avoir consacré de leur temps. On ne s'attendait pas à être si bien reçus en réalité. Alors une nouvelle fois, merci à l'équipe du MOOC, merci à tous.
Mais oui, c'est important de remercier, donc très bien, donc bravo, donc merci à vous, merci à tous les trois, merci à nous, merci à tous, voilà. Bon, donc maintenant, par contre, de non sérieux, et si vous le voulez bien, revenons à votre entretien avec Christine. Alors, elle a dit beaucoup de choses, on l'a entendu, beaucoup de choses très intéressantes, mais c'est quand même le point de vue du concepteur. Donc, elle est très bien placée pour en parler, mais aussi, d'une certaine manière, c'est la moins bien placée pour en parler, c'est la moins objective.
C'est une remarque tout à fait pertinente, Marie, surtout que notre ambition était de fournir une analyse aussi objective que possible. Mais en ce sens, se faire expliciter les implicites de la conception nous semblait constituer un prérequis de la première importance, en plus d'être complètement nécessaire, en fait. Et puis en même temps, Christine a répondu à nos questions dans le cadre d'un entretien que nous avions construit et préparé, si bien que ses réponses ne sont pas formulées au hasard. Nous avons cherché à les débusquer d'une certaine façon. C'est pour cette raison qu'il nous semblait intéressant en complément et parfois en contrepoint des propos de Christine de partager nos commentaires à nous, observateurs et participants, bien qu'à différents niveaux, de ce MOOC.
Alors justement, vous souhaitiez revenir sur quelques points de détail et donc, il me semble, pour se faire revenir aux critères de cette grille d'analyse.
Alors, on commence dans un premier temps avec les objectifs d'apprentissage. Donc Christine disait à la fois qu'il n'y en avait pas à proprement parler, mais qu'il y en avait un peu quand même.
Alors effectivement, les objectifs d'apprentissage, pour le coup, c'est vraiment un très gros morceau. Ils sont indéniablement un des éléments constitutifs clés d'un dispositif d'apprentissage. Et la particularité de ce MOOC, c'est, en l'occurrence, de ne pas définir d'objectifs d'apprentissage, disons des objectifs d'apprentissage traditionnels. Et Christine, en fait, le dit bien, il s'agit d'un MOOC qui est un MOOC culturel qu'on effectue dans le cadre de son temps libre et que l'on effectue donc avec plaisir et autant que faire se peut sans souffrance. Il n'est donc pas question de fixer des objectifs précis, des objectifs exigeants. Et de fait, il est assez intéressant, je trouve, de constater que pour atteindre ces objectifs, le MOOC, en définitive, se veut aussi peu contraignant que possible, de façon, du coup, à ne demander aucun effort aux apprenants. Et c'est justement, on est dans le cadre d'un dispositif qui s'adresse à des personnes qui, de leur plein gré, ont fait la démarche personnelle et spontanée de s'inscrire, de se connecter. Et c'est là, en somme, le seul effort qui est attendu d'eux. Ensuite, on s'efforce, une fois qu'ils se sont inscrits, une fois qu'ils sont en ligne, on s'efforce donc de fournir des contenus qui soient des contenus donc de qualité, et on les fournit de la manière la plus digeste et la plus sympathique qui soit, pour se retrouver, en somme, à apprendre malgré soi, presque, quoi. Et d'ailleurs, on est plutôt sur un registre de curiosité et d'appétit donc à satisfaire, que sur une modalité d'apprentissage où il serait question d'acquérir vraiment des savoirs et des compétences, disons des compétences métiers, quoi.
Il y a un facteur affectif qui entre en jeu, on pourrait dire. Christine l'a répété plusieurs fois. Les apprenants doivent pouvoir être libres. On les encourage d'ailleurs à travailler du fond de leur lit ou confortablement assis sur le canapé avec un thé d'un côté et un chat de l'autre. Ce qui n'est pas sans évoquer les dispositifs de médiation du musée actuel, où l'on ne cherche pas à appâter le public pour qu'il fasse la démarche de s'intéresser, mais on s'efforce au contraire d'être aussi accueillant que possible pour les personnes qui ont fait la démarche de s'engager et donc de pousser la porte.
La question des objectifs d'apprentissage, la manière dont ils sont ou non définis par les concepteurs, est, il me semble, corrélée à celle de l'information des apprenants. Alors, définir des objectifs, c'est une chose, les communiquer aux apprenants, c'en est une autre.
Oui, tout à fait. Et là encore, la réponse de Christine est très intéressante parce qu'elle nous permet d'aborder les questions qui touchent à la plateforme et à l'ambiance, à l'environnement d'apprentissage. Il faut savoir que les objectifs d'apprentissage définis en amont dont elle parle, c'est-à-dire... apprendre des choses sur l'histoire de l'impressionnisme ou encore pouvoir parler de façon plus fluide de notre rapport à l'art ne sont pas explicitement formulées. Pas plus que ne le sont les modalités d'apprentissage d'ailleurs, que l'on souhaite toutefois aussi plaisantes que possible. En revanche, la manière dont l'interface est construite, son aspect, sa fluidité diffuse ce message. D'une certaine façon, c'est le design d'interface et l'interaction qui sont porteurs de cette volonté de proposer des modalités d'apprentissage sympas, chouettes, assez libres finalement. On vous fait évoluer dans un environnement aussi peu contraignant que possible, tout à fait bienveillant, parce qu'on veut ni vous contraindre, ni vous assommer.
Mais donc c'est donc bien précisément en ce sens-là que Christine, à propos de la plateforme donc Solarny, parle bien de LMS. Alors le LMS, c'est un terme un petit peu donc métier. Ça veut dire le Learning Management System, et c'est comme ça que les anglophones désignent les plateformes d'apprentissage en ligne. Et ces LMS là, donc c'est comme ça hein, qu'on nomme les ENT, genre c'est comme ça qu'on nomme à l'école. On utilise donc la plateforme qui s'appelle Moodle. Ces LMS là, donc Marcel Lebrun, qui est un autre grand serial mooker francophone, dit que il s'agirait en fait plutôt non pas de LMS mais de TMS, en ce que le T, donc pour l'anglais teaching, en ce que ces plateformes sont plutôt conçues pour permettre aux profs de faire cours, bien plus que à l'attention des apprenants, dans une logique pédagogique d'apprentissage. Donc. Et c'est précisément parce que ce portail-là du MOOC impressionnisme est conçu avec le soin et le souci des apprenants et de leur confort de travail, et de faire en sorte qu'ils soient aussi peu entravés que possible, et ben c'est précisément pour ces raisons-là que on peut effectivement sans doute parler dans le cas de Solarny d'un LMS, et aller donc au-delà de la limitation de Marcel Lebrun qui parle de TMS. Et pour le coup, donc, dans le cadre du MOOC impressionnisme, on a bien affaire à un MOOC porté par une plateforme développée par Orange et dont le design est clairement orienté utilisateur, donc apprenant. Et en somme, tout y est fait pour que l'apprenant s'y sente un peu comme chez lui.
Donc, tu nous parlais de l'apprenant. On avait dit dans le premier volet de cette émission que le MOOC comptait presque plus de 13 500 inscrits, si je me souviens bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur eux ? Qui est ce public ? À qui est-ce que s'adresse le MOOC ? Qui sont ces apprenants ?
Enfin, la plupart des apprenants sont des gens ayant du temps, notamment des jeunes retraités. On sait d'ailleurs que le pic de fréquentation du MOOC a lieu en journée vers 17h. Sinon, sur le forum de présentation, on trouve également pas mal de professeurs du secondaire, cherchant de la documentation ou des compléments pour leurs cours. D'ailleurs, il y a également des jeunes enfants qui y participent avec leurs parents parfois. L'autre population qui est très présente est celle des artistes en herbe de tout âge, qui à travers les fils de discussion partagent leur passion. La plupart des apprenants sont des femmes par ailleurs.
Mais le truc aussi peut-être qu'on pourrait dire là, c'est que du coup, tous ces participants-là, ils doivent obligatoirement tous maîtriser un petit peu le français, puisque c'est un MOOC qui est en langue française, mais pour autant, ils n'habitent pas tous en France, puisque on rencontre des Italiens, des Allemands, des Canadiens, des Anglo-Saxons qui profitent en somme du MOOC pour exercer leur français, mais sans pour autant donc que le MOOC s'adapte précisément à chacun des profils, aussi bien d'un point de vue géographique que s'adapter à un public de jeunes, de moins jeunes, de spécialistes ou autres.
Et on doit aussi souligner que le profil des apprenants a une certaine importance, car l'un des objectifs de la RMN au départ était de diversifier le public qui fréquente habituellement ces musées et d'attirer notamment un public plus jeune. Quelque part, cet objectif a été atteint, puisque le MOOC a apparemment donné envie aux gens d'aller au musée. Beaucoup de messages en témoignent, comme celui d'Alain Delmain sur le forum. Pour conclure, et je cite, « C'était un grand plaisir de participer à ce MOOC qui a constitué, en ce qui me concerne, une excellente introduction aux expositions impressionnistes du Luxembourg et de Marmottan que je suis venu voir à Paris. Vivement de nouveaux MOOC consacrés à la création, pourquoi pas contemporaine, et l'art brut. Merci encore. »
Bon, enfin, il est à peu près sûr qu'on a quand même pris le soin de ne pas mettre les messages de gens qui pourraient se plaindre. On a plutôt essayé de valoriser les gens qui étaient heureux, quoi. Bon, on pourrait nous le reprocher un petit peu.
Ah bah mais... oui, l'objectivité journalistique, là. Hein.
Alors, une autre question qu'on pourrait se poser par rapport à ces participants, celui des prérequis alors qu'il faudrait pour participer à ces MOOC. Dans ce cas précis, faut-il déjà posséder un bagage en histoire de l'art pour appréhender les séquences? Est-ce que le MOOC requiert des qualifications ou des compétences particulières?
Pas du tout. La seule nécessité... voilà, donc vous pouvez tous participer au MOOC impressionniste, puisque la seule nécessité est de savoir lire et d'avoir Internet accessoirement. Là, parfois, c'est un peu plus difficile. Et c'est tout. On rejoint ce qu'on disait plus haut sur l'absence de contraintes et ce que disait Christine sur le niveau d'attente extrêmement bas. Après tout, le M de MOOC, c'est pour massif. Si on veut pouvoir s'adresser à tout le monde, il faut filtrer le moins possible à l'entrée, un peu à l'inverse des classes préparatoires.
Mais ce qui, pour le coup, n'empêche pas de vivre une expérience qui soit individuelle, dans le sens où le MOOC donne un tempo, mais au final, la situation d'apprentissage est, disons, suffisamment ouverte et permissive qu'elle permet à chacun, qu'elle laisse chacun libre de définir ses propres objectifs, de fixer son propre rythme et d'établir ensemble son propre scénario d'apprentissage. La liberté, disons, c'est peut-être un peu le maître mot, pour peu qu'on sache à peu près où on va et ce qu'on vient y chercher. Et quand, pour le coup, on ne sait pas exactement ce qu'on veut ni ce qu'on cherche, comme ça a été un peu mon cas, parce que pour le coup, je me suis inscrit à ce MOOC un peu pour suivre l'injonction d'un cours et puis pour voir un peu la manière dont ça marche, mais c'est vrai que je n'avais pas nécessairement de plan d'attaque précis, bon... Et eh ben, quand on est dans ce cas-là, on suit docilement les consignes, on se laisse guider, on se laisse bercer, et ça marche très très bien. Et en revanche, quand on est un prof d'histoire de l'art, du secondaire, et qu'on cherche par exemple des contenus précis pour construire ses séquences de cours, et eh ben peut-être que dans ce cas-là, on passe un peu plus de temps sur la barre de navigation, de manière à trouver les ressources que l'on recherche, plutôt que de se laisser aller au fil de l'eau.
Non mais, oh Guillaume, je vais te bouder là, je vais faire la tête. Je te rappelle qu'on a prévu des parcours justement spécialisés pour ces gens-là, avec des thèmes, pour faire des MOOC express justement sur l'histoire de l'art, sur l'histoire de la France au 19e. Donc s'il te plaît, reconnais mon dur labeur.
Alors on a parlé des profils d'apprenants, par contre on n'a pas parlé des apprenants en tant que communauté. Parce que si je ne me trompe pas, il y a quand même une scénarisation pédagogique qui repose beaucoup sur les relations entre ces différents apprenants. Et si je me souviens bien, dans l'interview, Christine parlait de socio-constructivisme.
En effet, ce MOOC avec plus de 13 000 inscrits repose sur une grande communauté d'individus partageant un intérêt commun pour l'impressionnisme. Et très clairement, dans ses intentions du moins, le MOOC est tourné du côté du social learning, comme y a déjà fait référence Ariane en parlant de partage. C'est-à-dire que l'apprentissage s'effectue par les interactions entre apprenants, qui co-construisent le savoir par la mise en commun de leurs savoirs respectifs. On touche là du doigt l'un des problèmes majeurs de ce MOOC, les forums. C'est le lieu où la communauté est supposée se constituer, parce qu'elle y échange, y partage ses vues, y débat. Or, les forums implémentés par ce dernier ne permettent tout simplement pas les messages imbriqués. En d'autres termes, il n'est informatiquement pas possible de répondre directement et sans équivoque à un message posté sur le forum. Il existe plusieurs forums, bien entendu, mais il n'est pas possible de lier les contributions entre elles, grâce au procédé pourtant traditionnel de citation, de mention et de réponse ciblée. Si bien qu'il n'est pas possible ou très difficile de discuter sur le forum.
Alors là, la co-construction du savoir en prend un coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce que c'est pas difficile de voir émerger des dynamiques de groupe dans ce cas? Est-ce que l'apprenant se retrouve dans une démarche assez individuelle au final?
Alors oui et non en fait, parce que... donc oui, dans le sens où le seul engagement que prend l'apprenant, il le prend vis-à-vis de lui-même. Il ne s'engage pas pour le coup auprès de la plateforme, il ne s'engage pas auprès d'un prof, il ne s'engage pas pour obtenir un diplôme ou il ne s'engage pas dans le cadre d'un travail de groupe, mais puisqu'il n'est soumis en fait à aucune espèce d'obligation de résultat, par contre il s'engage vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis du défi qu'il s'est fixé et vis-à-vis de la satisfaction de son propre intérêt. Et en ce sens, oui, je pense qu'il est possible de parler d'expérience individuelle, mais pour autant, l'apprenant dans son parcours n'est pas seul, et les interactions avec les autres donc restent possibles. C'est juste que, en l'occurrence, la plateforme ne les facilite pas exactement.
J'aimerais ajouter que pour Christine, qu'on a entendu dans le podcast précédent. Et en fait, je pense pour l'ensemble des concepteurs du MOOC, les contenus apportés par la communauté des apprenants sont au moins aussi importants que ceux « officiels » entre guillemets, qui sont proposés dès l'entrée de jeu. Or, l'état actuel des choses, les apprenants contribuent sur les forums et sur les forums uniquement, c'est-à-dire que vraiment leurs interventions sont circonscrites et elles sont finalement assez cachées. On touche là à une vraie question d'architecture de l'information qui serait de comment faire pour valoriser ces contenus et les mettre à valeur égale avec ceux proposés par le MOOC. Comment les mettre sur le même plan, en fait ? Et pour répondre à la question de la solitude de l'apprenant, j'ajouterais que le MOOC tient à la disposition des apprenants des animateurs.
Et animateur, c'est un métier. Et Ariane, je crois que tu es bien placée pour en parler d'ailleurs, n'est-ce pas ?
Ah ça, oui.
Alors, animateur, donc Christine précise bien qu'ils ne sont pas des tuteurs. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ton expérience d'animatrice du MOOC ? Déjà, comment est-ce que tu es devenue animatrice ?
Alors, au départ, il y avait un seul animateur officiel, Nicolas. Et toutefois, Christine parfois endossait également ce rôle pour compléter. Mais ils se sont très vite retrouvés débordés, comme je le disais, ça s'est emballé très rapidement. Ainsi, dès la première semaine, ou peut-être la deuxième, je ne me souviens plus très bien, il nous a été proposé de participer à l'animation du MOOC, de passer un peu de l'autre côté, de nous infiltrer pour en même temps mieux analyser ce dispositif.
Et concrètement, ça consiste en quoi ?
Alors, ma mission première était d'animer, comme vous en doutez. Yay ! Au sens qu'il fallait montrer en fait que derrière les nous qui étaient semés tout au long des forums, il y avait vraiment quelqu'un, d'humaniser la plateforme. Ainsi, je me suis appliquée à valoriser, souligner les contributions que je trouvais intéressantes, importantes, mais je réagissais également à des messages qui m'inspiraient. Et puis surtout, j'aimais proposer de nouveaux contenus qui ne se trouvaient pas déjà en place, finalement comme n'importe quel apprenant, sauf que je le faisais au titre d'animatrice. C'est-à-dire que j'avais vraiment deux comptes. J'avais un compte d'apprenant et un compte animateur avec pas exactement les mêmes photos, pas les mêmes noms. Ces échanges, ils prenaient deux formes. J'envoyais à la fois des messages privés aux apprenants, et parfois j'ai pu développer vraiment des discussions assez longues et importantes avec certains d'entre eux. Et puis, je postais les messages sur le forum également, parce que je voulais que tout le monde puisse en profiter. Quand je savais qu'une apprenante, par exemple, avait une passion pour Camille Claudel et que je lui proposais des bandes-annonces de films sur le sujet, je les mettais également sur le forum, parce que finalement, il y a plein de gens qui peuvent vouloir regarder ce type de film. Enfin, il n'y avait pas de raison de les en priver. Toutefois, il n'y avait aucun suivi individuel, ce n'était absolument pas mon rôle. Je ne pouvais pas identifier lorsqu'une personne décrochait, et même si j'avais pu, je n'aurais rien pu faire, je n'avais pas leur mail, je ne pouvais pas les relancer, leur dire « Hey, ça fait 3 semaines qu'on ne vous a pas vu sur le MOOC, peut-être que ce serait bien d'y faire un tour !» Et du coup, je n'étais clairement pas tutrice. D'ailleurs, on ne m'a pas du tout « engagée » entre guillemets, ou « recrutée » sur des prérequis de matière pédagogique. On ne m'a pas demandé une expérience en enseignement, on ne demandait pas d'enseigner.
Donc, le truc, c'est que si on voit donc effectivement bien que tu as une mission d'animation, en même temps, je trouve que même si Christine dit que le MOOC n'a pas de tuteur, je sais pas si je suis quand même exactement d'accord avec elle dans le sens où si on se réfère à la grille qu'on a vue en cours de Nelly Guillaume et en particulier au texte donc de synthèse sur le tutorat. Qui est partagé par Eric dans le module 3. Ce texte-là, donc, il définit les grandes fonctions, disons, associées au tutorat. Et j'ai quand même l'impression que ton travail d'animatrice t'a conduite un certain nombre de fois à empiéter un peu sur les plates-bandes d'un tuteur, dans le sens où, je pense en particulier quoi, aux fonctions sociales, aux fonctions d'accompagnement technique, d'accompagnement disciplinaire aussi, et méthodologique, en fait, dans une certaine mesure.
Oui, bon, dans un certain sens, mais pour autant, les fonctions essentielles de métacognition, d'évaluation n'étaient absolument pas assurées par les animateurs. On animait, on répondait, on cherche un moyen de redynamiser les forums, mais ça ne va pas plus loin. En particulier, j'insiste, on ne jouait aucun rôle dans l'évaluation, la validation des contributions publiées des apprenants. On n'a jamais été amené à les apprécier, à dire si elles correspondaient à ce qui était attendu ou non, En ce sens, on est tout à fait étranger à l'évaluation.
Alors merci Ariane, parce que ça nous fait une excellente transition avec le dernier point important de la grille, la question de l'évaluation. Alors, vous nous parliez précédemment de quiz et de badge.
C'est Pokémon.
La notion d'évaluation n'est pas tellement pertinente, appliquée à ce MOOC en particulier. Il y a évaluation, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent. Ils ont la possibilité, en fin de séquence, de répondre aux 10 questions d'un quiz. Les résultats de ce quiz permettent à l'apprenant de savoir s'il a retenu les éléments du cours IDOAN ou non. Mais puisqu'il n'est pas question d'objectifs d'apprentissage précis, à ce titre, l'évaluation devient moins pertinente. Il est possible cependant de s'assurer que l'on a bien retenu l'essentiel pour répondre à l'objectif d'acquisition de connaissances relativement à l'impressionnisme en répondant aux questions des quiz. Tout comme l'apprenant est invité, à chaque fin de séquence également, à porter sa contribution sur le forum en répondant à une question d'ordre plus général. C'est la dimension « je me positionne dans mon rapport personnel et sensible à l'art ».
Oui, oui, mais donc à ce propos, j'ai par exemple bien en tête la question que l'on posait donc, en fin de la séquence 1. Donc la séquence 1 était consacrée à l'émergence de l'impressionnisme, parce qu'elle montre notamment combien l'impressionnisme, dès son apparition, s'est complètement inscrit à compte courant de l'académisme jusque-lors en vigueur. Et en ce sens, donc, l'impressionnisme, quand il est apparu, a été vraiment jugé comme anticonformiste et donc très récrié. La question de débat donc, qui conclut en fait la séquence 1, invitait les participants à donner leur avis, positif ou non, avec trois arguments. Leur avis donc sur les expositions d'art contemporain qu'on a vu fleurir un certain nombre de fois donc à Versailles, on pense là en particulier à Kunz et à Murakami, et donc un certain nombre de personnes en fait ont répondu de manière plus ou moins argumentée, bon, mais sans jamais vraiment faire le lien avec le fait que l'impressionnisme lui-même en son temps était particulièrement subversif, et en l'occurrence là il y avait personne pour les inciter à justement à faire le rapprochement, pour les inciter à creuser, ni pour leur signifier qu'ils n'étaient peut-être pas justement allés assez loin dans leur réflexion. Donc à ce titre-là, les personnes sortent de la séquence 1, et sur cette activité-là, rien ni personne ne leur dit en gros s'ils sont dans la plaque, et c'est à ce titre-là. Donc on ne peut sans doute pas exactement parler d'évaluation, enfin du moins je crois.
En tout cas, je pense qu'on a très bien vu combien les MOOC et sans doute plus généralement l'e-learning, en fait, invite à repenser la manière dont on appréhende et dont on définit les situations d'apprentissage. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il était très intéressant que vous demandiez à Christine si on pouvait toujours parler de cours à propos de ces MOOC.
Oui, il est désormais temps de conclure. Autre chose à ajouter, un petit mot.
Merci Transistor.
Merci Transistor. Merci Nicolas, Mathilde, Marie d'avoir accueilli notre projet, c'est super.
Donc, alors, bon, c'est certain qu'on n'a pas tout dit, qu'on aurait pu avoir envie de parler davantage du rapport entre l'exposition et le MOOC pour peut-être éventuellement discourir un peu sur le fait que ce MOOC peut être une espèce de dispositif transmédia d'apprentissage. Bon, on aurait aussi sans doute voulu parler des traces et des productions des apprenants. Bon, on a
décidé... pas content.
On a décidé de laisser un peu de côté notre névrose de l'exhaustivité et de laisser plutôt ressurgir certains des points saillants et pertinents qui, en tous les cas, pouvaient nous permettre de nourrir une forme de débat.
Voilà, mais si jamais il y en a qui s'est intéressé, on vous invite à laisser un commentaire sur la page de Transistor ou à nous contacter directement par Twitter. N'hésitez pas.
Et avant de conclure, sans les lister de manière exhaustive non plus, remercions à nouveau Christine, remercions Anne-Lise, remercions Françoise, remercions, et c'est pas forcément pour faire bon genre, mais remercions aussi le master qui nous a permis d'aller à Paris pour voir l'exposition du MOOC Impressionnisme. On remercie Gilles Dufaux, qui est le directeur des nouveaux médias à la Cinémathèque française, qui a eu... la gentillesse de bien vouloir nous communiquer ses notes sur l'atelier du CLIC qui s'est tenu dans les locaux de la RMN. Merci Ariane, merci Analéa, moi j'ai adoré travailler avec vous sur ce MOOC.
Mais de même Guillaume, de même.
Thank you.
Merci à tous les trois.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply.